Bonjour à toutes et à tous, Didier Delatte sur IDFM, culture, insertion, jeunes talents, solidarité, citoyenneté, environnement. On fait le plein dans notre département et dans notre rendez-vous compte, évidemment.
Viens, mon beau chat, sur mon cœur amoureux. Retiens les griffes de ta patte et laisse-moi plonger dans tes beaux yeux. Mêlé de métal et d'agate.
Notre invité de ce jour est atteint d'une maladie chronique, le syndrome de Moritz. Bonjour Gérard.
Bonjour.
Alors, quel rapport cette maladie chronique, le syndrome de Moritz, a-t-elle avec le poème « Le chat » de Baudelaire que nous avons entendu, mis en voix ici par Chami Chow? C'est quoi cette maladie chronique? Le syndrome de Moritz.
Ben, c'est d'une part une inspiration qui vient effectivement de mon chat qui s'appelle Moritz, effectivement, qui est mon quatrième chat, mais particulièrement inspirant. Et puis ça a dû se croiser avec un peu de travail scolaire que j'avais fait avec les élèves.
Ancien prof, Gérard.
Ces élèves qui, quand je suis parti en retraite, m'ont dit « Ben, monsieur, continue à écrire ». Je voilà. N'avais rien prévu de particulier. Puis finalement, peut-être que le croisement de ces deux inspirations m'a fait écrire.
Alors donc, ce sont des chroniques, c'est-à-dire des textes plutôt courts.
Oui. Je ne suis pas capable de faire de l'écriture longue. au fur et à mesure des années, je suis de plus en plus convaincu. Et donc, j'écris soit des chroniques, soit des petits poèmes, soit des slams. Mais je n'ai pas vraiment de projet d'écriture longue.
D'accord. Bah, finalement, ça donne quand même quelque chose de suivi, puisque ces chroniques existent depuis un certain nombre d'années.
Oui, j'ai commencé à suivre de près l'actualité vue par mon chat en 2014, quelque chose comme ça. Oui, 2014 environ. Et celles qui sont dans l'ouvrage Les Chroniques de Moritz, ce sont plus récentes, mais s'étalent sur plusieurs années d'actualité insolite, parce que je n'ai pas voulu me lancer ni sur le terrain politique, ni sur des terrains polémiques. Donc, j'ai choisi, si possible, les informations insolites, et en essayant de me mettre à la place de mon chat qui regarde le monde, voilà. Les humains.
D'accord. Donc c'est un chat qui, l'air de rien, soulève des enjeux importants sans se prendre la tête. Hein. Je lis la couverture, la quatrième de couverture, et il donne son point de vue félin sur une grande diversité de sujets, la santé, l'environnement, l'éducation, les modes et même quand même de temps en temps la géopolitique. Et il nous fait des clins d'œil de sagesse et peut-être même de sérénité. C'est ça le chat?
Oui, bah, c'est ça, c'est l'objectif. Bon, l'esprit critique, c'est bien, hein, c'est pas un prof qui va dire que ça ne sert à rien, etc., etc. Mais il faut aussi, à mon avis, une dose de bienveillance, une dose d'humanisme, une dose de sérénité. Et ça, je crois que justement, s'il y a un animal, tout au moins un animal domestique qui apporte ça, je crois que c'est bien le chat.
Effectivement, le chat a une symbolique depuis l'Antiquité d'ailleurs, hein, puisque les Égyptiens l'avaient fait une déesse.
Absolument. Hein,
une déesse protectrice, ouais. Et puis, on reparlera un petit peu de Bernard Vercruis à la fin de cette émission, un dessinateur qui a pris pour thème principaux les chats. Alors donc, c'est une chronique, bien sûr, ce sont des mots sur des sujets divers, mais c'est aussi des illustrations de Jean-Marie Brochard.
Jean-Marie Brochard, que j'ai rencontré un peu par hasard, je crois d'ailleurs, grâce à François Jeannin du journal de François. Jean-Marie Brochard qui dessine un chat tous les jours depuis, je pense, au moins 10 ans, mais je ne le connaissais pas avant, donc peut-être même que c'est plus ancien que ça. Et qui, même si maintenant les chroniques sont terminées, il continue tous les jours à dessiner, à mettre en scène un chat. Et donc, il fait quelques expositions. Et parmi ces expositions, eh bien, parfois, on retrouve des pans de murs avec des centaines de chats illustrés.
D'accord. Donc, on pourra l'inviter peut-être un jour, parce que c'est quand même assez original, dessiner un chat tous les jours. Alors, dans les chroniques, il y a bien sûr, c'est le point de vue des chats, mais aussi, il y a beaucoup d'humour, on va dire.
Je crois que c'est nécessaire. Mais ce que je n'aime pas dans l'humour le plus médiatisé, c'est c'est trop d'ironie, à mon avis. C'est un peu de cynisme, c'est un peu de sarcasme. Même j'ai pas probablement pas le talent de ces humoristes-là, mais je veux pas non plus être sur le même terrain, et donc je veux pas que ce soit de l'humour méchant, voilà.
De l'humour méchant, est-ce que c'est un pléonasme ou est-ce que c'est un oxymore ? À voir. Voilà. Alors en tout cas, oui, je disais humour parce que par exemple, dans certaines de vos chroniques, vous citez une radio qui s'appelle RFM, mais c'est pas RFM comme on le connaît. C'est quoi ce RFM ?
À chaque fois que j'ai fait référence à un média, j'ai pris des initiales existantes, mais à chaque fois, je les ai félinisées, on va dire.
Donc RFM, radio, des félins, méditatif.
Ah, voilà, alors j'en ai tellement utilisé d'expressions déformées que je ne me souviens plus après voilà. Le nom des stations.
Mais l'animateur prépare bien son émission, donc il a repéré. Alors oui, il y a aussi RMC, RMC, Ruche et Maison Connectée. Hein, c'est une chaîne sur laquelle on voit un reportage sur la santé des abeilles. Voilà, RMC. Mais il y a quand même des questions très, très sérieuses hein, qui sont bien sûr posées. Par exemple, à propos d'un chat, toujours le même, manger pour vivre ou vivre pour manger ? Maurice hésite.
Oui, alors Maurice, comme je dirais presque, il fait référence à deux cultures parce qu'il est binational, étant donné que mon épouse est allemande et qu'il a fallu lui trouver un nom qui corresponde d'ailleurs dans les deux langues. Hein. Et du coup, sans caricaturer là pour le coup, je dirais que on reconnaît ce proverbe. Hein, les Latins, c'est plutôt vivre pour manger. L'Europe du Nord, c'est plutôt manger pour vivre, même si c'est il y a de moins en moins de comment dire
de différence
de ce point de vue. Mais malgré tout, ça correspond un peu à une différence culturelle.
D'accord. Alors justement, il est indiqué dans le journal de François, hein, qui a relaté très fidèlement les chroniques depuis longtemps. Bonjour François. Il est indiqué que les infos distillées par Maurice dans ses chroniques sont toutes vérifiables. C'est-à-dire que vous partez de faits vrais et vous les tournez un petit peu, comme vous dites, avec l'œil du chat.
Ah oui, absolument. Oui. J'ai pas voulu être dans la fiction totale. C'est imaginer un monde des chats qui serait complètement hors du monde des humains. Et justement, c'est aussi peut-être la déformation professionnelle, puisque j'étais professeur de sciences économiques et sociales. Donc, je reste pris dans le monde des événements humains. Mais effectivement, à chaque fois, j'ai utilisé des informations qu'on pouvait vérifier, que voilà. Le lecteur pouvait vérifier.
C'est ça. Mais toujours des informations un peu insolites. Je pense par exemple à une chronique. Alors, j'aurais du mal à prononcer le mot, mais c'est la vie en plein air à la norvégienne.
Ah oui, oui je ne me souviens même plus du mot. Je connais le hugge danois. Le hugge danois, c'est un terme qui indique le bonheur hein, qui est très utilisé dans tous les pays scandinaves.
Ça s'appelle le friluftsliv.
Oui, alors friluftsliv, oui. Voilà. Déjà dans friluftsliv, il y a fruit, la liberté, et c'est la liberté par rapport à la nature en particulier. Ils ont un rapport à la nature qui est différent d'une autre. Bon, pour un tas de raisons, hein, ne serait-ce que la géographie du territoire, la végétation. Mais c'est intéressant parce que, ne serait-ce que par exemple du point de vue scolaire, les élèves norvégiens sont beaucoup plus... je ne connais pas vraiment les provinces françaises, on est franciliens, hein, faut pas l'oublier, mais ils ont un contact, les élèves norvégiens ou scandinaves, globalement, ont un rapport à la nature, une connaissance de la nature qui est supérieure et différente à la nôtre.
Alors, par exemple,
oui. Excusez-moi. Oui. Par exemple, quand ils vont passer une semaine dans une forêt, oui. Eh bien, on leur fait faire aussi bien des sciences de la vie de la terre que de la physique, que d'autres références à des connaissances diverses, et c'est de la mise en pratique en plus. Bon, alors, je suis pas là pour vénérer un modèle par rapport à un autre, mais je pense que ça, c'est important pour les apprentissages.
Oui, bien sûr. Le contact avec la nature qui nous manque tellement et on ferait bien d'en profiter assez rapidement.
Oui, alors il y a des expériences en France hein, quand même qui sont... Mais ça reste un peu au stade expérimental. Après, le transfert pose toujours un ensemble de difficultés.
Alors, dans ce mode de vie dans la nature, il est question aussi de caresser les arbres, de les prendre pour se déstresser, etc.
Ouais. Alors, oui, eh ben, ça peut paraître complètement farfelu pour un certain nombre de gens encore. Moi, je ne suis pas dans la croyance, là. Hein. Bon, moi-même, je le fais aussi parfois. Et je me dis que, de toute façon, si ça ne fait pas de bien, ça ne fait pas de mal non plus.
Oui.
Voilà. Donc, et qu'il faut effectivement avoir un contact avec la nature. Par exemple, avant, pas mal de gens marchaient pieds nus dans l'herbe. Ouais. Aujourd'hui, on se méfie de marcher pieds nus dans l'herbe, alors que apparemment, ça a un certain nombre de bienfaits. Bon, et dans le second livre là que j'ai fait sur le dialogue entre le chat et
on va y revenir
et
dans quelques
être,
minutes.
Ouais. Eh bien, effectivement, le contact avec ce être est important pour le chat et pour nous aussi.
Alors, à propos des pieds nus, bon, j'ai eu l'occasion de vérifier en crèche avec des petits enfants, le personnel laisse les enfants pieds nus toute la journée pour que justement ils s'approprient le contact direct. Alors non pas avec la nature peut-être, mais au moins avec le sol.
Voilà. Oui, parce que je dirais le sol urbain est presque perçu comme hostile. Et du coup, les enfants ont un rapport au sol, les enfants des villes ont un rapport au sol qui ne facilite pas les choses ensuite pour leur rapport avec la nature. Alors qu'effectivement, si on peut toucher la terre, toucher les herbes, ça, c'est autre chose.
D'ailleurs, dans une des chroniques, vous dites que Moritz, le chat, donc, attend au tournant l'homme de la ville élevé à l'hypermarché depuis sa poussette. C'est un petit peu ce qu'on disait. Ouais. Et puis, vous prenez donc un élément, je pense, que vous avez trouvé dans un site très sérieux. Vous dites qu'à Atlanta, aux États-Unis, on a planté une forêt urbaine et entièrement comestible pour nourrir un quartier.
Oui, alors je pense que c'est dans une revue qui est très bien faite de ce point de vue, ça s'appelle Futura Science. Qui apporte beaucoup d'informations dans ces domaines-là. Et effectivement, on commence à parler de plus en plus de forêts urbaines. Hein, voilà, et c'est intéressant de voir que bon, bah, certaines villes poussent plus encore l'expérience que simplement transformer une petite place en...
Oui, c'est ça.
En bois urbain, on va dire.
Alors, vous dites aussi, vous avez trouvé qu'aux Pays-Bas, il y a une nouvelle thérapie qui se développe. Étreint d'une vache, juste quelques heures, ce qui stimule l'ocytocine, l'hormone du lien social.
Oui.
Et donc, vous concluez en disant, bah, à la limite, si on n'a pas de vache sous la main, on peut toujours pratiquer la chat-thérapie.
La chat-thérapie.
Oui, et serrer contre vous votre chat, enfin, à condition qu'il l'accepte.
Oui, oui. Et d'ailleurs, c'est probablement une des raisons, je ne sais pas, parmi lesquelles, pour lesquelles les bars à chats se sont un peu développés. Dans Paris,
depuis,
il y en a un certain
Japon,
nombre.
Depuis le Japon, d'ailleurs.
Depuis oui,
le Japon.
Depuis le Japon.
Ouais.
Et puis, à part les bars à chats, dans certaines écoles, même de l'Isère, je crois, le province, l'école héberge un certain nombre de chats qui sont dans les classes. Et apparemment, ça a un effet apaisant sur les enfants lorsque ça déborde un petit peu. Donc, il semblerait, même si la science peut-être là-dessus n'a pas vraiment de conclu, il semblerait que ça ait des effets. Alors moi, je le vois avec le mien, avec Moritz. Effectivement, c'est peut-être aussi ça qui fait la proximité, c'est que c'est un chat extrêmement câlin, qui lui-même, enfin, je veux dire, c'est avec les chats, c'est du donnant-donnant. C'est-à-dire que lui, il veut bien que je profite de ses ronronnements et de son pelage doux, mais en retour, il faut qu'il ait des caresses qui lui profitent aussi. Sinon, il ne joue plus.
De toute façon, comme on dit souvent, ce n'est pas le chat qui habite chez nous, c'est nous qui habitons chez le chat.
Absolument.
Voilà.
Absolument.
Ouais. Alors, il y a aussi une chronique qui m'a beaucoup amusé, c'est celle qui s'appelle « L'échec de l'empowerment félin ». C'est-à-dire, vous pouvez expliquer, parce que ça, c'est vraiment trop drôle.
Y a tout un langage nouveau, un métalangage, on dirait aujourd'hui, je pense, qui s'est petit à petit construit à la fois avec les nouvelles technologies, de l'informatique, de la communication, et puis les nouvelles formes de management aussi. Et tout ça donne un langage qui est parallèle. Donc le chat s'est étonné qu'effectivement, dans certaines circonstances, on n'utilise pas le langage classique humain. Et donc, il a essayé d'entraîner sa troupe de copains chats dans une réflexion sur, justement, en utilisant ce langage pour, soi-disant, construire un projet qui ne va jamais voir le jour. Mais voilà, et tous ses amis sont effrayés un peu par, justement, ce langage qui est... Bon, il est probablement utile dans un certain nombre de circonstances, il ne s'agit pas de le contester, mais il reste d'une grande virtualité, il reste très coupé du réel, tel que moi je le vois, tel que mon chat le voit, et tel qu'un certain nombre de gens le voient probablement.
Effectivement, et tous des termes américains. Bon, ce qui en soi n'est pas effrayant parce qu'une langue s'enrichit de toute façon de termes étrangers. Mais c'est vrai que l'ensemble... Alors, je relève dans la chronique, franchement, celle-là, elle est vraiment très drôle. Des termes comme team, une masterclass, de coworking, du phoning, de pitch, reporting, matcher, etc. Et effectivement, c'est ceux qui travaillent dans le secteur privé utilisent ces termes tous les jours, on va dire. Et comme vous dites, au bout du compte, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça crée comme humain ou pas. Voilà. Donc ça, c'est vraiment... Alors, c'est rédiger un texte savant, vous m'avez dit, même avec des notions que vous maîtrisez pas forcément.
Absolument. Alors, je dirais presque... J'ai terminé ma carrière de prof à partir du moment où les nouvelles technologies étaient apparues avant, évidemment, mais où se sont généralisées. Et je dirais que je n'en suis pas mécontent. Je suis resté un peu avec mon rétroprojecteur, avec mon feutre, mon stylo feutre, etc. Et je ne conteste pas l'utilité des nouvelles technologies en classe. Mais je pense que aussi les élèves ont besoin aussi, même en lycée, qu'on leur raconte des histoires. Je dirais qu'on leur raconte des histoires. Oui. Et là, il n'y a que l'humain qui peut le faire.
Alors à propos, à propos de technologie, dans votre chronique, il est dit que on ne maîtrise pas toute la blockchain et que vous êtes déjà au bord du burn-out.
Voilà.
Mais c'est vrai que les élèves et les grands, les adultes aussi, adorent qu'on leur raconte des histoires. Heureusement. Et pas simplement des termes un petit peu abscons ou des données numériques. Voilà.
Oui, tout à fait.
D'ailleurs, à la fin de sa vie, Montaigne, se posait la question dans un de ses essais. Quand je joue avec mon félin, qui sait s'il ne s'amuse pas plus de moi que je ne le fais de lui, en fait. Un petit peu ce qu'on disait. Qui joue avec l'autre?
Alors, je pense que les différents types de miaulements des chats peuvent nous indiquer un peu la signification de leur ressenti.
Bien sûr. Et on découvre aussi régulièrement que les animaux communiquent entre eux et ne poussent pas simplement des cris, quoi.
Voilà. Alors, oui, et puis maintenant, on découvre que les arbres aussi communiquent entre eux.
Ah oui, ils communiquent entre eux et c'est assez impressionnant, toutes les informations qu'ils s'échangent.
Voilà. Il y a un livre très intéressant qui s'appelle « La vie secrète des arbres
». Ah oui, oui.
Qui, effectivement, prend en compte les derniers résultats scientifiques et qui, en même temps, est sur d'autres dimensions et qui apprend beaucoup sur, justement, les liens que les arbres entretiennent entre eux.
Et donc aussi avec nous, indirectement.
Oui.
Donc, il y a eu ces chroniques de Moritz. Depuis une dizaine d'années, peut-être, non?
Alors, je vous dis, j'ai commencé en 2014, mais celles qui sont parues couvrent plutôt 2018 à 2022, à peu près.
Donc, c'est un recueil de chroniques.
Oui, c'est un recueil.
Donc, qui s'appelle?
Les chroniques de Moritz.
Voilà.
Alors, le monde vu par mon chat.
C'est l'éditeur Doureau, c'est ça?
Oui, c'est un éditeur de province, de Chaumont, dans la Marne. Qui a bien voulu tenter le coup pour éditer mon livre et le suivant aussi.
Alors, le suivant, justement, vous pouvez le présenter. Maurice est un chat connecté aussi, mais il va maintenant élargir un peu ses relations, on va dire, son monde. Il va se lier d'amitié avec un être.
Avec un être, oui.
Un être avec un H.
Oui, absolument.
Et pas un être humain.
Non, voilà. Je dirais d'une certaine manière, il était avec les êtres humains dans les chroniques. Il était au contact de leur monde. Bon, voilà, c'est arrivé un petit peu à saturation. Et finalement, il s'est dit pourquoi pas être en contact avec d'autres espèces. Et donc, des êtres, c'est pas le hasard. C'est parce que chez nous, il y a quelques êtres.
Qui sont en danger, d'ailleurs, de disparition. Alors, à plus ou moins long terme, apparemment.
Et j'avais remarqué que le chat aimait bien être au pied du hêtre. Alors, j'exagère un peu, dans le sens qu'il aime bien aussi être au pied d'autres arbres. Mais c'est ça qui m'avait paru particulièrement intéressant. C'était aussi quelques lectures que j'avais faites sur le hêtre, qui me paraissait être évidemment l'interlocuteur possible et intéressant pour le chat.
Être ou ne pas être.
Oui, oui, alors je n'ai pas voulu me faire référence à Shakespeare.
Mais enfin, quand même, dans la quatrième de couverture, hein, donc, il est écrit « Comme chacun de nous, il, c'est-à-dire le chat et le être, navigue entre raison et sentiment. » Qu'est-ce que vous avez voulu dire par là?
Je me suis posé la question sur quoi j'allais les faire dialoguer. Donc, comme je ne voulais pas les faire dialoguer sur l'actualité, je me suis demandé à quoi je ferais référence. Et je fais référence peut-être dans le champ des humains, mais aux valeurs. Quelles sont les valeurs qui traversent la vie des sociétés, en particulier des valeurs positives si possible. Et donc, à partir d'une liste de valeurs, on en trouve des listes de centaines de valeurs, j'ai essayé de mettre au défi le chat et l'arbre, de dialoguer sur, au total, finalement, il y en a 50, je crois, une cinquantaine de valeurs telles que le courage, l'espoir, l'abondance, la sérénité, etc. etc.
C'est un cours de philosophie, en quelque sorte.
Ça serait prétentieux de dire ça. Hein. Je veux dire, je suis pas philosophe, ou dans le sens commun du terme, peut-être, mais pas dans le sens des connaissances.
Voilà, donc Maurice va bien ?
Oui, oui.
Se porte bien ?
Tout à fait.
D'accord.
Tout à fait.
Alors, pas comme dans cette très émouvante chanson de Renaud, « Le petit chat est mort ».
Il se baladait, peinard, il avait pas de collier. Il était libre d'aller et de revenir pour bouffer. Il était même pas prisonnier de ton amour insensé. T'aurais quand même pas voulu qu'il vive comme un con sur le canapé, loin des gouttières, des pigeons, c'était un aventurier. T'aurais pas voulu qu'on l'attache, il t'aurait miaulé mort aux vaches. Le petit chat est mort, il est tombé du toit, c'est comme ça. Il a glissé sur je sais pas quoi et patatras. On l'enterrera demain, je te jure, dans un joli carton à chaussures.
Vous êtes toujours bien sur IDFM à l'écoute de ce rendez-vous conte où nous recevons aujourd'hui Gérard Pouêtre, auteur saint-loupien des chroniques et des dialogues du chat Moritz, publié aux éditions Dourot, des chroniques et de nombreux articles qu'on peut retrouver sur le très précieux et très complet Journal de François, en ligne sur Internet, toute l'actualité culturelle, les infos, l'histoire, la solidarité de notre département. Un grand merci, François. Gérard, une autre facette de votre talent, c'est le slam.
Oui, à l'origine, là aussi, c'est l'origine, je dirais, scolaire, puisque la sociologie est une discipline qui se prête assez bien à ce type de travail. Et donc, après une expérience que j'avais jugée concluante auprès des élèves, et en particulier, je dirais, auprès des garçons, pour en accrocher un certain nombre qui étaient au bord du décrochage, je dirais. Et j'avais expérimenté un atelier slam court, mais qui leur a permis, semble-t-il, de se rendre compte qu'ils avaient des choses à dire et que dans certains contextes, ils étaient capables de les dire. Du coup, ça m'a conforté dans l'idée que moi-même, finalement, pour moi, c'était un jeu. je pouvais aussi essayer d'écrire quelques slams, sans prétention, je ne suis pas grand corps malade. C'est une poésie libre par rapport à l'alexandrin classique, c'est une poésie libre, mais ça reste malgré tout...
extrêmement rythmé.
Voilà, et puis en plus, on peut produire des émotions, aussi bien avec un slam qu'avec un autre type d'écriture. La sonorité est particulièrement importante, et c'est peut-être c'est ça aussi qui intéresse les jeunes, c'est qu'ils ont aussi l'impression qu'on est proche de la chanson quand on dit un slam, puisque quand on l'écrit, il faut penser aussi c'est quelque chose qui est à dire,
qui est à
transmettre.
En public. Alors, est-ce que vous avez fait cette expérience vous-même de slammer devant un public en délire ?
Un tout petit peu, puisqu'à Paris, il y a des bars à slam, il y a des bars à chat, il y a des bars à slam, qui avaient assez bien accueilli les choses, où il y avait justement tous les slameurs du quartier, et peut-être une partie des slameurs parisiens qui étaient là, et qui trouvaient le plaisir de se retrouver et d'échanger justement ces poésies.
Alors, il y a un slam dont vous avez tenu à parler, qui s'appelle « Je suis raciste, j'aime pas le blanc ».
Oui, oui, oui. Apparemment, quand je l'ai lu, ça touchait un certain nombre de gens. Donc, si vous voulez que je vous le...
Oui, oui, une petite...
Il est très court.
Oui.
Je suis raciste, j'aime pas le blanc. Déjà, juste nouveau-né, je voulais pas boire de lait. Ma mère mettait de la fraise et je buvais à mon aise. Je suis raciste, j'aime pas le blanc. Un peu plus grand, des œufs, je ne mangeais que le jaune. Autour du blanc baveux, je délimitais la zone. Je suis raciste, j'aime pas le blanc. C'est trop propre, c'est trop clean, comme une pub de lessive. Mais la vie qui se décline a des couleurs moins vives. Je suis raciste, j'aime pas le blanc. Quand ma grand-mère est morte, couverte d'un linceul blanc, je voulais claquer la porte, je trouvais ça provoquant. Puis l'amour m'a frappé, bretonne toute dorée, par le vent coloré, dès le jour où elle est née. Pour notre première nuit, il y avait un drap d'or. Le blanc était banni, mais je n'étais plus d'accord. Je voyais pas son beau corps, elle était invisible. C'était de l'or sur l'or, et j'étais insensible. Elle a mis un drap blanc, ce qui m'a rendu triste, mais on s'est aimé tant que je n'étais plus raciste.
Ah, une bonne fin, voilà. Le titre est inversé à la fin.
Voilà,
super.
Absolument.
Alors, ça nous mène directement à une autre activité encore, Gérard, l'atelier d'écriture à Saint-Leu.
Alors, un atelier d'écriture accueille, dans mon cas et dans la plupart, des gens qui aiment écrire, mais qui veulent d'une certaine manière être rassurés sur leur qualité d'écriture, qui veulent qu'on les aide à produire, des émotions. Mon travail, c'est de produire des exercices qui leur permettent d'épanouir leur écriture, de trouver leur sillon. C'est ça, en fait. Parce que je me suis rendu compte à l'usage, ça fait 11 ans que je le fais, je me suis rendu compte que, petit à petit, les participants arrivaient à identifier à la fois leurs points forts et leurs points faibles. Et l'idée, évidemment, c'était de cultiver leurs points forts. J'ai par exemple quelqu'un qui a énormément d'humour et qui... et justement, un humour qui n'est pas non plus sarcastique, etc. Il y a énormément d'humour et qui, petit à petit, cultive ce sillon. J'ai d'autres personnes qui ont... Alors, et là, mon aide n'est que très limitée, qui ont un roman en cours. J'ai une autre participante qui s'est maintenant spécialisée un peu... Alors, elle était professeur de lettres, ce qui aide quand même, qui s'est spécialisée dans les biographies des personnes qui voulaient raconter leur vie, mais qui justement ne se sentaient pas en capacité de le faire eux-mêmes. Enfin, donc il y a une grande diversité de publics, mais avec ce plaisir commun d'écrire et puis d'attendre un peu d'aide pour pouvoir épanouir leur style.
Comment on fait si on veut s'inscrire ?
Eh bien, alors là, pour l'année 2023-24, on a fait 20 séances, donc ça se termine là finalement début mai. C'est le mercredi soir de 18h à 19h30 à Saint-Leu-la-Forêt, à la Maison pour tous. On commencera le dernier mercredi de septembre 2024. Ce sera annoncé par la ville de Saint-Leu qui m'a effectivement hébergé et qui fait les annonces concernant aussi bien d'ailleurs le dernier livre que l'atelier d'écriture. Le journal de François annoncera aussi le début.
Et rendez-vous compte aussi.
Voilà. Donc, il suffira de se présenter le dernier mercredi de septembre 2024 à 18h à la Maison pour tous à Saint-Leu. Et puis, moi, je serai là.
On termine cette émission comme on l'a commencé, avec un autre poème de Baudelaire, toujours sur le chat, mis en musique cette fois-ci par Poézik.
Dans ma cervelle se promène, ainsi qu'en son appartement, un beau chat fort, doux et charmant. Quand il miaule, on l'entend à peine. Tant son timbre est tendre et discret, mais que sa voix s'apaise ou gronde, elle est toujours riche et profonde. C'est là son charme et son secret.
C'est là son charme et son secret.
C'est là son charme et son secret.
Cette voix qui perle et qui filtre dans mon fond le plus ténébreux, me remplit comme un verre nombreux et me réjouit comme un filtre. Elle endort les plus cruels mots et contient toutes les extases pour dire les plus longues phrases. Elle n'a pas besoin de mots. Elle n'a pas besoin de mots.
Quand mes yeux versent chaque j'aime, tiré comme par un aimant, se retourne docilement et que je regarde en moi-même, je vois avec étonnement le feu de ses prunelles pâles, clairs fanaux, vivantes opales, qui me contemplent fixement.
Merci Gérard.
Merci beaucoup.
À bientôt. Bonne chronique. Bonjour à Maurice aussi. Oui. Voilà, c'était Didier Delattre. Vous retrouverez le podcast de l'émission sur le site d'IDFM. À la semaine prochaine, même heure, même adresse, pour un nouveau Rendez-vous compte.